Il est 17h ici à Paris, 20h à Islamabad et 20h30 à New Delhi. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, la tension diplomatique entre l'Inde et le Pakistan est maximale après un attentat meurtrier dans le Cachemire indien. New Delhi accuse Islamabad d'être responsable de l'attaque. Les deux pays enchaînent les mesures de rétorsion, fermeture de frontières, suspension de visas et expulsion de diplomates. La Crimée est au centre du conflit ukrainien et de sa tentative de résolution par Washington. Les Américains poussent Kiev à lâcher ses revendications sur la péninsule pour la plus grande satisfaction de Moscou qui la conquise dès 2014. C'est inacceptable pour les Ukrainiens. Et puis l'administration Trump continue par ailleurs ses coupes claires et l'Afrique en fait les frais. Explication dans ce journal. On commence donc ce journal avec l'escalade diplomatique entre New Delhi et Islamabad. Des centaines de Pakistanais ont manifesté dans plusieurs villes du pays, accusant l'Inde de vouloir la guerre. L'attentat meurtrier il y a deux jours dans le Cachemire indien a mis le feu aux poudres, faisant 26 morts civiles. L'Inde accuse le Pakistan d'être responsable de l'attaque, sans le nommer, alors qu'Islamabad nie toute responsabilité dans l'attaque. New Delhi a notamment décidé d'expulser tous les Pakistanais qui se trouvent en Inde. Ils doivent quitter le territoire dans les 5 jours. À Bangalore, les explications de Combat.
En 2019, Narendra Modi avait bombardé le Pakistan après une attaque contre des soldats indiens dans le Cachemire. C'est à nouveau vers le voisin musulman que les coups partent. Un traité fluvial entre les deux pays a été suspendu, la frontière principale a été fermée et plusieurs diplomates pakistanais ont été renvoyés. S'adressant à la foule dans le Bihar, Narendra Modi s'est voulu grave et a utilisé l'anglais pour s'adresser au monde.
Les terroristes ont tué des innocents, ils ont ciblé les plus pauvres. Il y a des centaines de milliers de nos compatriotes en souffrance. Je le dis au monde entier, l'Inde identifiera, traquera et punira tous les terroristes et leurs complices. Nous les pourchasserons jusqu'aux confins de la terre.
India's spirit will never be broken by terrorism.
Deux terroristes ont déjà été tués en Inde, mais jusqu'où se poursuivra cette traque? Les services secrets indiens affirment que le groupe qui a frappé le Cachemire est hébergé au Pakistan. Islamabad dénonce des accusations sans fondement. En attendant, la tension monte en Inde. De nombreux étudiants originaires du Cachemire indien ont été victimes de harcèlement et d'intimidation de la part des autorités après l'attentat. Plusieurs groupes extrémistes hindous ont aussi émis des menaces de mort à l'égard des musulmans indiens. Combastin, Bangalore, RFI.
Et la réponse d'Islamabad n'a pas tardé. Elle annonce, fermer totalement la frontière entre les deux pays. Fermeture aussi de son espace aérien. Des diplomates indiens sont aussi expulsés du Pakistan. En Ukraine, la nuit dernière a été particulièrement meurtrière. Une pluie de drones et de missiles s'est abattue sur la capitale ukrainienne. 12 personnes ont été tuées, bilan revu à la hausse, par les secours sur place. Et cette attaque massive est le signe pour les Ukrainiens que la pression exercée sur Moscou n'est pas assez forte. Mais du côté de Washington, Donald Trump veut à tout prix obtenir un accord de cessez-le-feu, quitte à entériner les conquêtes territoriales de la Russie, notamment celle de la Crimée, la péninsule conquise par la Russie dès 2014. Le président français Emmanuel Macron l'affirme, la question de la Crimée ne se pose pas pour le moment. Il faut d'abord obtenir un cessez-le-feu inconditionnel. Pour Kiev, la question est très sensible. Abandonner la péninsule, accès aussi à la mer Noire, serait synonyme de capitulation. Mais l'armée ukrainienne et les autorités politiques du pays ont-elles simplement les moyens de continuer à revendiquer la reconquête de la Crimée? Élément de réponse avec Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'Europe centrale et orientale et de la Russie.
Sur le plan militaire, elle n'en a pas les moyens. Elle a essayé de progresser vers la Crimée militairement pour reprendre la Crimée et elle n'a pas abouti évidemment à une reconquête de la Crimée. Et aujourd'hui, politiquement, eh bien, effectivement, Vladimir Zelensky se trouve dans une impasse, puisque d'un côté, il ne peut pas rappeler la souveraineté ukrainienne légale sur la Crimée, mais de l'autre, il ne peut pas le reprendre par les armes, et il n'a plus le soutien des États-Unis pour réaffirmer la souveraineté ukrainienne sur la Crimée. Donc, La question est de savoir non pas s'il va céder, mais quand il va céder, et si et dans quelles conditions il va céder, quelle contrepartie il va obtenir en échange d'une reconnaissance éventuelle et lointaine de l'annexion de la Crimée par la Russie.
Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, interrogé par Alice Froussard. Pendant ce temps, la tronçonneuse américaine est toujours en action. Nouvelle coupe de Washington dans ses financements en Afrique. Le gouvernement de Donald Trump a ordonné la fermeture du Millennium Challenge Corporation, son agence qui avait investi 17 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure depuis sa création il y a 20 ans. Destination principale de ces fonds, le continent africain. Les États qui en bénéficiaient n'auraient pas encore été informés officiellement, mais le MCC va se retirer immédiatement des projets qu'il finançait. Alexis Bédu.
Tout est très soudain. Encore le 3 avril dernier, le MCC lançait un avis de passation de marché pour des sites de stockage au Sénégal. Valeur de l'investissement pour l'ensemble du programme sénégalais, 1,5 milliard de dollars. Le MCC finance également sous forme de dons des projets d'infrastructures en cours de développement en Zambie, au Mozambique ou encore au Togo. On parle là de construction de routes, de modernisation de réseaux électriques, des investissements américains indispensables pour faire aboutir ces projets qui ont aujourd'hui du plomb dans l'aile. Des dérogations ont tout de même été autorisés. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Les travaux d'un échangeur au grand carrefour de Koumassi à Abidjan, financé par le MCC, pourront se terminer. Le Sénégal disposera de 3 mois pour sécuriser les chantiers en cours. Suspension des travaux, mais sans forcément pouvoir les achever. Le MCC est moins bien doté que l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international, également en cours de démantèlement par Donald Trump. Mais c'était une aide importante pour les pays et surtout un outil d'influence pour les États-Unis.
En France, un élève a poignardé à mort une lycéenne. 3 autres ont été blessés dans un établissement scolaire de Nantes, dans l'ouest du pays. L'assaillant a ensuite été maîtrisé par le corps enseignant. Selon les premiers éléments de l'enquête, les ministres de l'Éducation nationale et de l'Intérieur sont attendus sur place. La tombe du pape François sera accessible au public dès dimanche, annonce du Vatican qui prépare ses funérailles. Elles sont prévues samedi. En attendant, les fidèles continuent d'affluer au Vatican. Jusqu'à demain soir, la dépouille du pape François est exposée dans la basilique Saint-Pierre. Sur le front de l'environnement à présent, les vins européens sont de plus en plus contaminés par le TFA, le plus petit des polluants éternels et le plus répandu des PFAS. C'est ce que constate le réseau Pesticide Action Network, aussi appelé PanEurope, qui vient de publier une étude sur le sujet. Une 50aine de vins européens ont été analysés et les résultats sont plus qu'inquiétants. L'augmentation des concentrations de TFA est exponentielle ces dernières années. Le réseau appelle les autorités européennes à agir au plus vite pour la santé de tous. Juliette Pietraszewski.
Parmi les vins rouges, blancs et rosés, issus de 10 pays européens et analysés, une tendance claire s'affiche dans l'étude. Le TFA n'a pas été retrouvé dans les 10 millésimes d'avant 88, mais il était bien présent dans les 39 vins produits après cette date. C'est un produit issu de la dégradation des pesticides PFAS. Résultat, lorsqu'on en pulvérise sur les cultures, on vient les contaminer avec du TFA. Les analyses suggèrent ainsi un lien entre l'utilisation des pesticides PFAS et des niveaux élevés de TFA. Salomé Rouanel est chargée de mission chez PanEurope, le réseau européen de lutte contre les pesticides.
Il faut d'abord interdire les substances qui sont trop toxiques pour être sur le marché. Et par ailleurs, il faut effectivement un soutien public pour aider les agriculteurs à changer de modèle. Quelque chose qui est quand même interpellant, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas en connaissance du fait qu'ils pulvérisent des PFAS pesticides, tout simplement parce qu'ils ne sont pas étiquetés comme tels. Donc véritablement, là, il ne s'agit pas de pointer du doigt les agriculteurs, mais simplement de dire qu'il faut changer de modèle et il faut que les autorités publiques se saisissent de problèmes aujourd'hui.
Si certains PFAS ont déjà été interdits, le TFA, lui, n'est soumis à aucune législation en Europe. L'Union européenne doit d'ailleurs se prononcer mi-mai sur l'interdiction du flutolanil, un pesticide PFAS émetteur de TFA. TFA qui persiste dans l'environnement.
Enfin, un marathon musical a commencé à Londres. Le pianiste allemand Igor Levit donne un concert unique. Il doit durer plus de 16 heures. 16 heures de solo d'une partition d'Eric Satie intitulée Vexation. Voilà, tout de suite, c'est Sur le pont des arts avec Nathalie Amar.
Merci Karine Bellichat. À tout à l'heure.